nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Avec ses peines, accepter d'être puni. Comme on doit l'être. Tony lui dit. Qu'est-ce qui vous dit que je dois être puni? Parce que nous avons tous quelque chose à nous reprocher. Un moment d'émotion. Un mot dit sans vraiment y croire, toutes ces petites choses sans importance et qui font beaucoup de mal. Toi, je suis sûr que tu t'es disputé avec quelqu'un. Tony lui dit, non, avec personne. Mais ça t'empêche pas que tu aies des choses à te faire pardonner. Hein? Tony haut ses épaules et lui dit, ça ne vous regarde pas? L'homme lui dit, non, peut-être, mais on ne sait jamais. J'avais une sœur, une gentille fille, très belle, mais était tombée amoureuse d'un jeune homme. Ils devaient se marier. Malheureusement, elle avait un frère qui l'aimait aussi. Un jour, le frère, pris de jalousie, est allé la voir. Elle était dans la maison de son fiancé. Il s'est disputé avec elle dans sa chambre. Maladroitement, elle lui a dit qu'elle ne l'aimait pas et qu'il était fou. Je l'ai rendu fou de colère. Il a pris son couteau qu'il avait toujours dans sa poche. Il a tué à coups de couteau dans le corps, de partout, dans le ventre. Il ne savait plus ce qu'il faisait. Les cris de la malheureuse a réveillé le fiancé qui couchait un peu plus loin. Dans la chambre. Il a couru, vu sa fiancée morte à coups de couteau, avec du sang partout. Il s'est baissé, il se relevait pas, en pleurant. Je lui demandais pardon, il ne me voyait pas. Il avait perdu la raison. Et il ne savait plus où il était. juste assis près de la morte et resté hébété comme ça, sans bouger. Ni nous voir, ni nous entendre. Moi, je suis parti. J'ai entendu du bruit dans le couloir. J'ai entendu des cris de la mère et des domestiques. Je suis faufilé et je suis parti. Tony lui demande, pourquoi dites-vous tout ça? L'homme lui dit, parce que je viens d'apprendre que la fiancée est morte. Que le fiancé est mort. Et que la mère vient de mourir, elle aussi. Il ne reste personne de ce drame. Tony lui dit, si, moi. L'homme le regarde, toi, oui, moi. Tu te moques de moi? Non, c'est la vérité. C'est de ma faute. Si Matthew est mort et sa mère a eu une crise cardiaque, et il lui raconte tout. Puis il lui dit, sa mère était folle, comme elle croyait que son fils était coupable, elle le faisait chanter pour qu'il reste près d'elle. Je vous n'avais pas tué votre sœur. Elle l'aurait sans nul doute tué pour qu'elle ne se remarie pas. L'homme lui dit, tu connais la vérité? Oui. Tu peux me dénoncer? Je le pourrais, mais je ne le ferai pas. Pourquoi? Tony lui dit, parce que nous allons mourir ensemble. C'est ce que nous souhaitons tous les deux, la mort, non? L'homme lui dit, peut-être, oui, la mort d'un de nous deux. Il continue à rouler en silence. Tony se demande, ou ne se demande pas, où il va se retrouver. L'homme a arrêté sa voiture. En pleine campagne, il dit à Tony, « Allons, sortons !» Ils sortent de voiture. L'homme lui dit, « Venez !» Tony le suit et se demande où va le mener l'homme. Il s'arrête au bord d'un ruisseau. Ça semble être un ruisseau ou un lac. Dans la nuit, on ne sait pas très bien. En tout cas, c'est dans une clairière. Il y a le bruit de l'eau. L'homme fait face à Tony. Il sort un revolver. Tony panique et lui demande, pourquoi? Parce que vous savez mon secret. Et c'était où nous deux, ou vous tout seul. J'ai réfléchi. Ce sera vous. Il vise. Tony recule. Non ! L'homme vise. Tony tombe. À la renverse. Le trou noir. Quelque chose vient lui caresser le visage. Il ouvre les yeux et voit le soleil. Il n'est pas mort. Il se soulève, a mal à la tête et aux pieds. Ses pieds, en reculant, ont été pris par une racine. Et en tombant, sa tête a cogné une pierre qu'il a assommée. Il voit qu'il est dans une clairière, et cette clairière a un lac qui baigne de soleil. Tout à coup, il entend un bruit, comme quelque chose qui sort de l'eau. Ou plutôt, qui remonte de l'eau. Et voit apparaître, sortie des profondeurs de l'eau, au milieu du lac, une jeune fille nue, aux cheveux blonds, longs, un visage merveilleusement blond. Une apparition, une jeune fille comme il n'en a jamais vue. Il est comme ébloui, n'ose pas bouger. Elle nage, sort de l'eau, complètement nue. Elle le voit. À demi allongée, qui la regarde. Lui sourit et va vers lui. Elle lui dit « Bonjour, dormeur du Val. » Il lui dit « Bonjour. » Elle lui demande « Que faites-vous ici ? » Les vêtements défaits. Et la mine fatiguée. Il lui dit, on a voulu me tuer. Elle lui sourit et lui dit, vous les garçons, faites toujours des inventions de n'importe quoi. Il lui dit, je vous assure que c'est vrai. Et vous, qui êtes-vous? Elle lui dit, moi, je suis une fée. Il lui dit, je ne crois pas que vous soyez une fée. Elle lui dit, et pourquoi pas? Vous m'avez bien dit, quand vous avez essayé de vous tuer, si je dois croire à votre histoire, vous devez croire à la mienne. Il lui dit, je veux bien croire à la vôtre. Il est vrai que vous êtes aussi jolie qu'une fée. Elle lui dit, et vous, vous êtes aussi chiffonnée qu'une personne qui vient de se battre. Elle lui donne un baiser sur la joue. Il lui dit, vous êtes la plus jolie fille que j'ai jamais vue. Il a tout oublié. Pour lui, ce qui compte, de cette fille. Cette fille sortie des eaux. Elle se relève, s'éloigne, prend dans l'herbe une petite robe blanche qu'elle met. Puis, elle va vers lui. Vous restez ici ? Il ne dit rien. Elle lui dit, parce que moi je m'en vais. Il lui dit, j'aimerais vous revoir. Elle lui dit, je vous écrirai, donnez-moi votre adresse. Il est ennuyé. Rentrer chez ses parents, cela ne l'enchante guère. Elle lui dit, si je n'ai pas d'adresse, vous n'aurez pas de mes nouvelles. Et puis, je n'arrive pas à aimer les vagabonds. Parce qu'il le faut, qu'il lui donne son adresse, il lui dit, j'habite chez mes parents. Elle lui demande, ils habitent loin vos parents? Il lui répond, je ne sais pas. Elle lui dit, donnez-moi votre adresse et je vous raccompagne. J'ai une voiture. Il la lui donne. Il s'est levé et l'a suivi. Elle l'amène jusqu'à sa voiture. Voiture décapotable blanche. Et ils sont partis. Elle lui dit, je m'appelle Gisèle, moi c'est Tony. Il est ému d'être près d'elle, dans cette voiture, assis à côté d'elle. Il voit ses longues et fines jambes, son visage, qui est d'une très grande pureté. Il se demande si elle se baigne comme ça, nue. Et si elle se montre sans pudeur, elle le regarde, le trouve joli garçon, même très beau, peut-être un peu jeune. Elle voit ses petites mains posées à plat sur ses genoux. Elle voit son visage de profil, avec son petit nez délicat et ses cils de fille. Pourquoi de fille ? Il y a plus de garçons que de filles qui ont des cils longs et un peu relevés naturellement. Leurs regards se croisent, elle lui sourit et en fait autant. Il se demande s'il ne rêve pas, lui, avec une fille si jolie. Elle lui demande, à quoi pensez-vous ? Il lui dit, je me demandais si vous baignez tous les jours comme ça. Elle lui dit, oui, dès que je peux. J'adore me baigner dans ce lac. Je l'appelle le lac aux fées. L'eau y est fraîche, mais pas froide. Et puis le décor est très beau. J'habite à 2 kilomètres du lac, chez mes parents. Mon père est un vieux médecin, disons de campagne. Ma mère ne travaille pas. Et je suis leur fille unique. Moi, je veux être biologiste plus tard. Je suis très heureuse ici. Et j'aimerais y vivre toujours. Je suis assez solitaire. J'ai très peu d'amis. Mais amis, c'est tout. Et vous ? Il lui dit, moi, pas grand-chose. Mon père est dans les affaires. Ma mère ne fait rien. J'ai des frères. Plus petits que moi. Et je voulais essayer de me lancer dans le commerce. Mais maintenant, je ne sais plus. Maintenant, je ne sais plus. Et il continue à rouler. La chaleur commence à monter. Elle lui demande : Vous êtes parti comme ça ? Oui. Pourquoi ? Je ne sais plus. Mais maintenant, je crois que c'est pour vous rencontrer. La vue passée ne m'intéresse pas. Ou elle ne m'intéresse plus, quoi. Elle lui dit : Merci. Vous voulez me faire croire que vous m'aimez ? Il lui dit : C'est la vérité. J'ai pas envie de rentrer chez mes parents. Je veux rester avec vous. Elle lui dit : Nous ne pourrons pas. Nous avons chacun notre vie. Il lui demande : Nous reverrons alors. Elle lui dit : Oui, sûrement. Elle le regarde. Il a l'air si malheureux. Oui, bien sûr. Ils arrivent devant la maison de ses parents. Il lui demande : Il est quelle heure ? Elle lui dit : 8h30. Ils doivent être encore au lit. Ils ne s'apercevront pas que je suis parti. Elle lui dit : Allez-y vite. Elle l'embrasse sur la joue, lui ouvre la portière, lui dit : Nous vous reverrons, n'est-ce pas ? Elle lui dit : Oui, je vais organiser une fête bientôt, je vous inviterai. Il a regardé la voiture s'éloigner. Il va sauter le mur pour entrer dans la propriété. Va vers la maison sans trop faire de bruit. Ouvre la porte d'entrée avec sa clé et entre. Il va jusqu'à sa chambre. Monte les escaliers. Il va rentrer dans sa chambre. Une fois dans sa chambre, il se déshabille en vitesse. Et va prendre sa douche. Puis il retourne à sa chambre s'habiller. Une fois qu'il est habillé, il décide c'est de prendre son petit déjeuner. Thank you. Là, il retrouve sa famille dans la salle à manger. Sa mère lui demande : Tu vas mieux, mon chéri ? Je suis heureuse de te revoir. Il va s'asseoir à la table et lui dit : Oui, je vais mieux. Elle lui dit : Oui, un peu de fatigue. Tony regarde Nathalie qui le regarde intimidée. Il la trouve belle, mais n'a plus de désir pour elle. Gisèle a pris sa place. Il pense à Nathalie comme une brave copine, c'est tout. Il se dit qu'il a été idiot d'aimer sa cousine comme un gosse. Après le petit déjeuner, ils se sont assis près de la piscine. Nathalie va s'asseoir près de lui et lui demande : Tu vas mieux ? Oui, je crois que je suis comporté tous ces temps comme un gamin idiot. Mais maintenant c'est fini. D'ailleurs, j'ai déjà oublié tout ça. Nathalie est triste. Il se dit qu'il a bien fait d'oublier sa faute qui a provoqué un suicide et une mort de chagrin. Il se dit qu'il a dû oublier aussi son amour. Décidément, ces garçons sont trop superficiels. Et la vie reprend. Petite musique mélancolique du temps qui passe. Pour elle, les fêtes, soirées, musique, voyage, sport, etc. Tout d'un coup, tout ça la fatigue. Puis cette histoire qu'elle a eue avec Mathieu, et la déception de Tony, car Tony, d'un coup, la délaisse, ne s'occupe plus d'elle et passe son temps à rêvasser seul. Elle se dit que peut-être il a rencontré une jeune fille. Un jour, il a reçu une invitation à une soirée pour lui seul. Il s'en est allé fou de joie. Malgré elle, Nathalie a eu un petit pincement au corps. Ses déceptions, ses peines, et toutes ces invitations, ces soirées où l'on se couche à point d'or, ses courses effrénées pour faire du sport ou voyager, tout d'un coup, elle se sent fatiguée. Et cette fatigue lui donne de la déprime, mélancolie. Elle court moins facilement à ses rendez-vous. Et comme elle court moins, elle voit mieux ce qui l'entoure. Elle voit que cette vie voit de ses vies que des choses éphémères, pleines de quinquants, sans prix. La pacotille, quoi. Elle s'aperçoit que l'on rit, que l'on s'amuse de rien, que l'on s'efforce surtout à rire, puisqu'il faut être heureux, bien puisqu'on l'on est là et que l'on est les meilleurs. Elle s'aperçoit qu'elle est entourée de tapes à l'œil, que ce sont que des décors, de faux meubles de style, de fausses moulures, tout est faux, copié. Pour les gens aussi, elle est entourée de gens qui la traitent comme une amie, des gens étrangers qui ne la connaissent même pas et qu'elle ne connaît pas. Ces faux amis, avec leur rire crispé, leur conversation tellement superficielle qu'au bout de 6 mois, on ne sait toujours pas qui ils sont. Et sa famille, qui se veut charmante, mais qui est en réalité très autoritaire, il faut toujours faire ce qu'ils ont décidé, son oncle et sa tante. J'attends tout dit. Nous allons à cette soirée, ma chérie. Qu'en penses-tu? Ce serait charmant. Et si on ne peut pas y aller, je le regretterai toute ma vie. Etc, etc. On ne peut pas refuser quoi que ce soit lorsque c'est dit comme ça. Dis donc, tu peux faire plaisir à ton petit oncle adoré. Viens avec moi à cette soirée. Etc, etc. Seuls les cousins restent en dehors de tout ça. Il est vrai qu'ils sont très jeunes et qu'ils sont occupés ailleurs.
C'est bien trop sage pour moi.
À une soirée, Tony a présenté sa nouvelle amie. Nathalie en a eu un petit pincement au corps. C'est vrai qu'elle est très belle, une vraie fée, comme il l'appelle. Les parents de Tony ne sont pas très chauds que leur fils. Ils auraient préféré une fille plus près de leur milieu. Le père n'est que médecin tout de même. Nathalie déprime de plus en plus et cache sa dépression sous un village lisse et heureux. Et puis, personne ne veut voir Nathalie mal dans sa peau, surtout pas sa mère. Elle cherche toujours à croiser sa fille. Elle la surveille parce qu'elle veut la causer. Pour cela, elle lui présente des tas de jeunes gens de la bonne société. Mais non, Nathalie reste froide. Le matin, lorsqu'elle se réveille, elle a assez de voir ce soleil arrogant qui, dès son lever, vous brûle et rend insupportable l'air. Nathalie en a aussi assez de ses jardins, pelouses, fleurs, de ses fruits, jardins, comme tout le reste est faux, où l'on est obligé d'arroser constamment, parce qu'autrement, il redeviendrait désert. Tout ce qui l'entoure ici est faux et cache une réalité peu reluisante. Même les gens sont faux, de faux riches qui sont devenus riches et respectables en étant franchement respectables et riches. Les riches viennent de choses peu respectables, leurs familles non plus. Ce sont d'anciennes familles, de détenus, de gens rejetés par la société parce que peu respectables. Ils ont fait fortune en tirant sur la gâchette. L'on vit dans un décor de cinéma, décor nature et maison. Ces maisons sont de faux luxe, de faux vieux, du toc en bois, ciment et verre. Pour imiter le vieux, on donne une respectabilité qu'on n'a jamais eue. La musique, comme tous les arts, c'est du faux folklore. Tout est faux. Les gens jouent riches en étant surendettés et vivant que sur leur emprunt. Nathalie se languit de plus en plus de la France. Bien sûr, en ce moment, elle n'est guère reluisante. La France. La pauvreté de la France, c'est la vraie pauvreté, pas cachée par du tape à l'œil. On n'aime pas le faux, on aime le vrai en France. Un matin, au petit déjeuner qu'elle prend près de la piscine avec sa mère, elle lui dit « Mère, j'aimerais rentrer chez nous. » Sa mère la regarde surprise. « Mais pourquoi, ma chérie? Tu n'es pas bien ici ?» Nathalie lui dit « Si, mère, mais la France me manque. » Sa mère lui dit « En France, tu vas retrouver la pauvreté. » Et on n'est pas bien ici. Nous sommes bien. Il y a le soleil et tout. Nathalie lui dit. Je suis fatiguée de tout ça. Et puis j'ai hâte, c'est de retrouver chez nous. Sa mère lui dit. Nous ne pouvons pas partir comme ça. Aussi vite. Pense à ton oncle, ta tante. Et puis on est bien ici. Nous avons des amis charmants. Tu es entourée de jeunes gens très bien. À Paris, tu n'as personne. Ils sont pas bien ces jeunes gens, Nathalie lui dit. Ils sont très superficiels, comme tout ici. Et puis, vous oubliez, c'est que j'ai Gilbert. Sa mère lui dit. Tu ne peux pas comparer ce Gilbert avec ces jeunes gens. Ce Gilbert, c'est bon à rien. Et puis, il t'a peut-être oublié, lui. Nathalie lui demande, « Mère, pourquoi dites-vous ça ?» Elle lui demande, « Tu as eu de ces nouvelles ?» Nathalie lui dit, « Non, il n'en ai pas eu, peut-être qu'il est trop occupé. » Sa mère lui dit, « Pas plus que toi. » Eh bien, tu tu lui as écrit ?
Oui, mère.
Eh bien, tu vois qu'il t'a oublié.
Nathalie est triste. Et a peur que sa mère dise la vérité.
Cela la pousse encore plus à vouloir aller à Paris.
Elle étouffe de plus en plus dans ce monde de carton-pâte. Elle voit les gens sans maquillage, potiche, postiche, chirurgie esthétique. Les gens avec leurs dents blanches, blanchies au pinceau. Elle étouffe, refuse de plus en plus souvent les invitations qu'on lui fait.
Sa tante lui dit « Pourquoi est-ce que tu veux pas aller à la plage avec les Cliffs ? Ce sont des gens charmants et les amis qu'ils t'aiment beaucoup. » Nathalie lui dit « Comment veulent-ils m'aimer tous ces gens que je ne connais à peine ? Si je ne vais pas avec eux, ça n'a aucune importance. Moi non plus, je ne les connais pas. » Sa tante lui dit outrée « Tu ne les connais pas ? Mais... ils étaient à toutes les soirées et les fêtes avec toi. » Nathalie lui dit, « Ça ne me prouve rien. Bien, fais comme tu veux. » Et la tante sort de la pièce. Pour aller trouver la mère de Nathalie dans sa chambre. Elle entre. La mère est assise à sa coiffeuse. La tante va vers elle.
Que se passe-t-il? C'est ta fille. Elle est devenue bizarre. Refuse de sortir.
Anne lui dit.
Je sais. Elle m'a dit qu'elle voulait rentrer. Elle commence à s'ennuyer. Et elle est peut-être un peu fatiguée.
La tante lui dit, « Eh bien, partez si vous le désirez. »
Anne lui dit, « Si nous rentrons à Paris, elle retrouve l'autre, et je ne veux pas. Non, il faut la forcer à rester ici, la distraire. Il n'a plus de chevalier servant, je crois. Nous devons lui en trouver un. »
La tante lui dit,
« Elle a épuisé tous les jeunes gens. Il n'en reste plus personne. Mais je crois que qu'il vaudrait mieux... c'est qu'elle se repose un peu. »
La mère lui dit,
« Oui, une petite cure de repos dans sa chambre, en attendant mieux. »
Lorsque Anne voit sa fille pour le déjeuner, elle lui dit
« Je te trouve un peu fatiguée. »
La tante lui dit
« C'est vrai, tu devrais te reposer un peu, ma chérie. »
Nathalie se dit « Si on la laisse se reposer, elle aura la paix. » Elle leur dit
« Oui, je me trouve un peu lasse. »
La tante lui dit
« Tu veux qu'on va faire venir notre médecin ?»
Tony dit « Pourquoi pas ?» Le père de Gisèle, il est médecin ?
Sa mère lui dit,
« Non, nous avons un bon médecin qui soigne la famille depuis des générations.
tu le vexerais si faisais venir quelqu'un d'autre.
Tenez, lui dit, c'est un très bon médecin. Et puis, Nathalie ne la connaît pas.
Sa mère lui dit,
non, ce sera un autre médecin.
Après le repas, Anne dit à Nathalie d'aller se coucher. Nathalie ne se fait pas dire deux fois. Elle y va. Comme ça, elle pourrait être tranquille toute seule toute l'après-midi. Allongée dans son lit. On a frappé.
Entrez.
Entre. Sa tante, avec un monsieur, grand, mince, cheveux gris, costume gris, avec un cartable noir. Sa tante lui dit,
ma chérie, je te présente votre docteur Blair, qui va voir ce que tu as, il va te sculpter. C'est le médecin de toute la famille.
Nathalie se soulève.
Bonjour docteur, docteur lui dit. Je suis heureux de faire la connaissance d'une petite parisienne. Alors, vous êtes fatigué? Je vais vous sculpter.
La tante dit.
Bien, je vous laisse.
Et elle les quitte.
Nathalie dit au médecin, « Vous savez, je ne suis pas du tout malade, mais j'en ai assez de l'Amérique. »
Il lui dit, « Tu dois être un peu de fatigue. Vous avez beaucoup sorti ces derniers temps, bien sûr. Alors, repos complet. Je vais vous faire une petite ordonnance. »
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.